Vous écoutez RTL.
Heures, 23h, RTL Grand Soir.
Agnès Bonfillon, Christophe Paco.
Bonsoir à tous. Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir, votre grand rendez-vous. Comme chaque soir, avec l'actualité de votre journée, à tête reposée, les toutes dernières informations tout d'abord, suivies d'un décryptage, d'un gros plan et vos chroniques habituelles jusqu'à 23h, les sports, l'actualité du net ou encore l'écho 2.0. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. Et sans plus tarder avec vous Agnès Bonfillon, les grands titres de l'actualité ce soir.
50 CRS supplémentaires mobilisés à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, pour combattre le trafic de drogue. Objectif du ministère de l'Intérieur, viser les dealers, mais aussi les consommateurs. Sur place, vous l'entendrez, accueil plutôt mitigé. La carotte, mais surtout le bâton, nouveau dispositif de Pôle emploi à partir de cet été. Les chômeurs seront surveillés autrement pour être sûrs qu'ils cherchent sans relâche du travail. Des agressions sexuelles par des collégiens sur des filles de leur classe de 6e. Cela s'est passé à Paris. L'âge des suspects suscite l'étonnement.
Elle a l'habitude d'intervenir justement dans les établissements scolaires. Violaine Guérin sera notre invitée. Elle est la présidente de l'association Stop aux violences sexuelles.
Grosse déception ce soir pour les footballeuses du PSG en Ligue des Champions. Les Françaises se sont finalement inclinées en finale à Berlin face aux Allemandes. Score 2-1.
Toute dernière minute. 94e, terrible destin pour les Parisiens. On en reparlera avec Ludovic van de Kerkhove tout à l'heure. Dans RTL Sport, nous parlerons également de la Ligue Europe après la Ligue des Champions. Les demi-finales retour ce soir, c'est bien parti pour Nièvre toujours. Après le 1 partout en Italie face à Naples la semaine dernière, pour l'instant c'est du 0-0. Dniepropetrovsk, c'est la grosse cote, qui pourrait se qualifier pour la finale face à Séville. Ça c'est quasiment acquis. Séville qui mène 2-0 face à la Fiorentina. Match aller, il y avait eu 3-0. Notre rendez-vous ce soir notamment après les sports, signé Agnès, spécial manga story ce soir. Et si vous avez
Et j'assume, je le dis tout de suite.
Si vous avez besoin de rien, envie de, hein, vous connaissez la chanson, vous ne serez pas déçus ce soir. Ce sera juste avant 23h dans RTL Grand Soir.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco, Agnès Bonfillon.
Et donc comme tous les soirs, d'abord votre journal. Et on commence par cette opération à Saint-Ouen. Ne plus traquer seulement les dealers de drogue, mais aussi les consommateurs. Vaste opération aujourd'hui, policière tout près de Paris à Saint-Ouen.
Oui, c'est dans ce département de la Seine-Saint-Denis. Donc depuis hier, 50 CRS sont mobilisés. C'est le ministre de l'Intérieur en personne, Bernard Cazeneuve, qui a annoncé l'objectif. Sachant que cette opération, Émilie Beaujard, devrait durer plusieurs jours. En vous rendant sur place, Émilie, vous l'avez constaté quand même, le changement n'est pas radical.
Eh bien, nous n'avons croisé aucun uniforme. Les rondes policières sont, semble-t-il, très discrètes. Pas de quoi éradiquer les trafics, estime Eddy, qui habite au cœur de la cité Cordon.
Ils viennent en fonction des événements qui se passent. Il n'y en a pas plus, c'est pas vrai. Ils viennent, ils restent une petite heure ou deux, et ils se regroupent tous dans un endroit du quartier. Et après, une fois qu'ils sont partis, ils reprennent leur place et leur petit business, quoi. Ça ne sert à rien. Il faut interpeller et mettre sous les barreaux les personnes qui sont responsables de ces trafics. C'est la seule solution. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais.
En tout cas, l'annonce de ces renforts policiers a suffi à dissuader les dealers. Pareil pour les consommateurs qui n'ont pas trop osé se montrer aujourd'hui. Mais pour Salika, une habitante du quartier, ce calme ne va malheureusement pas durer.
Dans 3 mois, 6 mois, quand la police, les CRS quitteront le terrain, on reviendra à la même situation. C'est pas ça qu'on souhaite. Ces contrôles successifs de jeunes vont recréer de la tension. Ça va à nouveau partir en vrille. C'est pas ce qu'on attend.
Pour éviter cela, Salika et d'autres habitants préconisent de sortir du tout répressif. Selon eux, il est temps maintenant pour la mairie de remettre des éducateurs dans les rues et de redonner des moyens aux associations de quartier.
Le reportage d'Émilie Beaujard pour RTL, on l'apprend à l'instant, le maire d'hiver droite de Saintes, en Charente, avait provoqué la colère de ses adjoints pour avoir, sans les informer, fait racheter son ancien véhicule, un 4x4, son véhicule de fonction, par la municipalité. Et il a donc admis ce soir s'être trompé. Il a dit qu'effectivement, il assumait cette erreur et qu'il rachèterait sa voiture.
22h04, on parle économie. Un nouveau dispositif pour les chômeurs généralisé à partir de cet été, Agnès.
Désormais, Pôle emploi va davantage contrôler les personnes à la recherche d'emploi. Donc, l'établissement va s'assurer que ces dernières font bien leur maximum pour intégrer la vie active. 3 régions ont déjà expérimenté le dispositif. Alors, Bénédicte Tassard, concrètement, comment cela va se passer ?
Alors, chaque équipe de contrôleurs va recevoir chaque jour une liste de chômeurs tirés au hasard ou dont le cas a fait l'objet d'un signalement. Première vérification, celle du dossier de ce demandeur d'emploi. Est-il inscrit sur le site de Pôle emploi ? S'est-il abonné aux offres ? A-t-il créé son compte personnel ? Le chômeur reçoit ensuite un questionnaire et fournit des pièces justificatives, comme des mails de candidature, par exemple. Si ça ne suffit pas, on passe à l'entretien téléphonique. Un contrôleur va vous appeler. Et enfin, dernière étape, c'est la convocation pour un rendez-vous en face à face.
Et quelles sanctions sont prévues, Bénédicte ?
La sanction, eh bien, ce sera la radiation de Pôle emploi, d'abord pour 15 jours, donc pas d'indemnité, radiation qui pourra durer 6 mois s'il y a récidive, s'il n'y a toujours pas la volonté de chercher du travail activement.
Merci Bénédicte, à tout à l'heure évidemment, pour l'écho 2.0 comme chaque jour. En politique, François Hollande tente de rassurer au maximum les profs d'allemand et tous les autres hein, dans la réforme des collèges. La suppression des sections européennes et des classes bilingues sont prévues et cela inquiète. Pour autant, pas de crainte à avoir sur l'apprentissage de la langue vivante en elle-même, selon le président de la République. François Hollande, qui s'est également exprimé sur la situation au Burundi lors de son déplacement à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Il appelle à la fin des violences, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné la tentative du coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Est. Eh bien, les États-Unis, eux, apportent à nouveau leur soutien au président en place. Ce soir, le chef du groupe État islamique exhorte les musulmans à rejoindre son groupe sur des sites djihadistes. En Syrie, le groupe terroriste de Daesh serait aux portes de Palmyre, une cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 26 civils auraient été tués aujourd'hui tout près de la ville.
RTL Grand Soir.
Il est 22h06, on a évidemment beaucoup parlé ces derniers jours du vol de plusieurs singes hein, aux eaux de Beauval, c'était en tout début de semaine d'ailleurs, pour être précis, au trafic du moment, celui des plantes rares.
Oui, au parc de la Tête d'Or à Lyon, on connaît malheureusement bien ce phénomène. Depuis 2 ans et demi, le premier jardin botanique de France subit les vols à répétition, Arnaud Grange, face au butin que ces espèces représentent, hein, le malfrat semble prêt à tout.
Oui, le mode opératoire est toujours le même. Le voleur intervient en journée, en période de faible affluence, et dérobe une ou plusieurs espèces de plantes. Il est visiblement bien équipé, d'après Grégory Sianfarani, l'un des responsables du jardin botanique.
On voit même des traces d'outils, c'est-à-dire qu'il doit avoir dans ses poches un petit transplantoir qui lui permet d'arracher bien proprement les plantes, certainement pour les replanter chez lui, ou enfin en tout cas les maintenir vivantes. C'est pas pour faire des bouquets de fleurs. Ça pourrait s'assimiler à un vol de tableau dans un musée, comme le Louvre par exemple.
42 ans et demi, plus d'une centaine d'espèces différentes ont été dérobées, ce qui est catastrophique. Certaines plantes sont rares, voire inexistantes dans la nature. Daniel Boulan, c'est le responsable des espaces verts de la ville de Lyon.
Ce sont des plantes qui, certaines, sont en voie d'extinction. Donc notre rôle ici, c'est bien de les protéger, voire de les multiplier. Leur vol contribue à éteindre encore plus vite l'espèce, parce que si on ne les trouve plus dans ces jardins botaniques, on les trouvera nulle part. Et dans un jardin privé, elles n'ont qu'une valeur toute relative.
Alors, est-ce l'œuvre d'un collectionneur ou d'un trafiquant qui revendrait ensuite ces plantes rares? Pour l'heure, personne n'a été interpellé. Des plaintes ont été déposées par le jardin botanique qui a dû renforcer sa sécurité.
Le reportage de notre correspondant Arnaud Grange pour RTL. Ça tombe à l'instant, je l'apprends en même temps que vous, le gouvernement Netanyahou en Israël obtient la confiance du Parlement.
On va passer au sport, ben oui. Et on y a cru, et une énorme déception pour nos footballeuses du Paris Saint-Germain, on était tous derrière les footballeuses évidemment du PSG, ça a craqué à quelques secondes de la fin seulement du temps réglementaire, Agnès.
Bah ben oui, en finale face à Francfort, les Françaises se sont finalement inclinées 2-1, et vous le disiez, hein, Christophe, j'allais dire Paco
aussi, c'est n'importe quoi. Paco, c'est très intime.
Dans le temps additionnel, hein, à la 14e minute, je vous propose d'écouter leur boulot, qu'est-ce qui se passe au tout dernier moment quand on encaisse un but comme ça, elle est défenseur de l'équipe.
On est déçus que c'est quasiment le pire moment pour prendre un but. Donc on se dit que pour revenir au score, ça va être compliqué. On a la Coupe du Monde qui arrive, donc on va essayer de passer à autre chose, même si effectivement là, c'est difficile d'avoir le sourire. Ça nous servira peut-être, enfin, certainement même d'expérience, parce que je pense que c'est aussi ça qui nous a manqué ce soir. Mais voilà, je reste quand même fière de notre parcours. Je suis fière de porter ce maillot, comme toutes mes coéquipières, et d'être arrivée arrivé là, c'était quand même beau. Là, il y a la déception forcément, mais il faut quand même garder le positif.
Oh bah oui, hein. Et puis on y reviendra tout à l'heure.
Oui, on y reviendra avec Ludovic van de Kerckhoff. Grosse déception. On reviendra également sur les échauffourées entre joueurs et supporters à l'OGC Nice. Côte d'Azur, le football, c'est le direct, c'est la mi-temps, ça va repartir. Demi-finale retour avec Séville qui mène 2-0 face à la Fiorentina. Les Espagnols sont en pleine forme en ce moment. Ils avaient gagné 3-0 à l'aller, donc logiquement, Séville en finale. De l'autre côté, c'est plus serré. Un partout au match aller entre Dniepr et Naples. Ce soir, Dniepr pour l'instant et Naples sont à égalité. 0-0 dans un instant. La météo, juste avant d'aller au cinéma, je vous rappelle qu'après, tiens, on fera un petit tour au fort de Brégançon pour découvrir l'ouverture. Ça, c'est intéressant pour la deuxième année consécutive, évidemment, du fort qui s'y est tant bien que mal à nos présidents de la République. On en parlera avec le conservateur.
RTL,
le Festival de Cannes.
Cinéma pour terminer comme tous les soirs dans RTL Grand Soir, direction le Festival de Cannes, Agnès.
Exactement comme tous les soirs, direction La Croisette où nous retrouvons Stéphane Boutsock et Michel Cohen-Solal, nos messieurs cinéma pour RTL. Bonsoir les garçons.
Bonsoir Agnès, bonsoir
Christophe. Bonsoir à tous.
Cette première journée de
très
compétition.
Grande journée, quoi, oui.
Ah ben belle journée, hein, visiblement, même si ça a démarré non pas sur les chapeaux de roue.
Non, on peut pas dire ça.
Très lentement avec deux films. Le premier, un japonais, signé Hirozaku Koreeda.
Absolument, qui vous embrasse.
Il s'agit de notre petite sœur. Alors c'est un très beau film, hein, autour de quatre jeunes filles qui partent à la recherche et à la rencontre de leur demi-sœur à la suite de la mort du père. Hein. C'est très joli, il y a de beaux paysages. Je dirais que c'est entre la petite maison dans la prairie, mes versions sushi, et puis les quatre filles du docteur Marsh.
C'est exactement ça, version sushi. Ouais. J'espère qu'on ne va pas se faire saquer. Et le deuxième film s'appelle Il racconto dei racconti.
Ah oui, le conte des contes.
Alors, le film est quand même signé Matteo Garrone, qui avait fait il y a quelques années un film coup de poing ici qui s'appelait Gomorra, qui parlait de la mafia napolitaine. Et là, c'est une espèce de fresque un peu onirique, un peu sensuelle, un peu fantastique, avec Vincent Cassel, avec Salma Hayek. C'est pareil, c'est sublime à regarder.
Très beau, il y a des sorcières,
il y a des ogres, il y a
des rois,
bizarres.
Des princesses, des dragons, des animaux, des monstres. C'est très, très curieux quand même.
Mais, voilà, mais.
Il reste quand même la grosse projection du soir.
La Max, vous voulez dire?
Ah bah oui, quand même.
C'est l'événement du jour. Ça sortait partout en France aujourd'hui. Hein. Quatrième épisode des aventures de Mad Max avec Tom Hardy qui a remplacé Mel Gibson, avec Charlize Theron, etc.
Très bien accueilli.
Ouais, très bien accueilli. Déjà, gros succès dans les salles. C'est très beau, c'est très bien fait, c'est très efficace. Ça manque, à mon humble avis, d'un tout petit peu de fond quand même et de noirceur comme l'était le tout.
Comme vous y allez, Stéphane.
Oui, je n'hésite pas.
Mad Max. Charlize Theron, des magnifiques.
Oh, évidemment.
Parfait, messieurs. Demain, Woody Allen sur La Croisette. On se retrouve demain soir.
Merci beaucoup.
Bisous. Allez, bisous. La météo de ce vendredi pour conclure ce journal.
Et on ne range pas tout de suite les parapluies. Hein. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. Demain, le temps sera encore instable et humide, principalement dans les régions du sud et plus précisément entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes ou encore la Franche-Comté, avec des averses sous forme de pluie ou de neige dès 1200 mètres sur les reliefs. Tout cela sera parfois accompagné d'orages. Plus au nord et à l'ouest, le temps sera encore nuageux, mais avec de plus en plus d'éclaircies en cours d'après-midi et le risque de pluie disparaîtra. Beaucoup de soleil en Méditerranée, mais avec là du vent, puisque Mistral et Tramontane atteindront les 110 km/h en rafale. L'après-midi, les températures ne dépasseront plus les 15 à 17 degrés dans la plupart des régions, encore 20 à 23 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup, Louis Baudin. On retrouve juste après, évidemment, un grand moment ce soir à venir, puisque dans Signe Agnès, ce sera une surprise ce soir.
Je pense
qu'on va chanter, je ne sais pas pourquoi. On va parler manga, on va parler de chansons des années 80, de Star 80. Ce sera dans Signe Agnès, juste avant 23h. Dans un instant, 3 minutes pour comprendre, on va essayer de comprendre votre intérêt pour les monuments nationaux, tout de suite.
RTL Grand Soir.
3 minutes pour comprendre.
Aujourd'hui, c'est relâche. C'est férié, vous en profitez, vous avez bien raison.
Pour la plupart, oui.
3 minutes pour comprendre votre intérêt grandissant, visiblement, pour l'héritage et les fastes de notre belle République, avec la visite possible, depuis l'an dernier, par exemple, de la résidence d'été de nos présidents. C'est le fameux fort de Brégançon, qui est situé dans le sud de la France, à Bormio-Mimosa, pour être précis. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, fort de son succès, la résidence présidentielle
vous l'avez fait
déjà,
quand même, évidemment.
Quand même, c'est vrai. On a déjà rouvert les portes ce matin, pour le plus grand bonheur de l'administrateur des centres des monuments nationaux de cette belle région. C'est monsieur Bernard Lemagouarou qui est avec nous en direct. Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Ça ressemble à quoi déjà le fort de Brégançon au niveau, je sais pas, c'est un, deux, trois pièces, c'est salle de bain, cuisine, piscine, fenêtre. Plage.
Alors non, c'est pas un, deux, trois pièces, c'est un peu plus grand, mais il n'y a pas de piscine, il y a une plage effectivement, mais ni piscine ni tennis au fort de Brégançon.
Il n'y a rien, il n'y a même pas une petite piscine intérieure.
Non.
D'accord.
Bon bah c'est sobre, écoutez. Ouais. Alors dites-nous, historiquement, à quand remonte la première visite, Bernard Lemagouarou, le premier séjour d'un de nos présidents?
Eh bien, c'est en 1964, lorsque le général de Gaulle vient passer quelques jours pour les fêtes du débarquement à Toulon, et il décide de dormir au fort de Brégançon, qui est une propriété de l'État. Il va y passer une nuit épouvantable, puisque les lits étaient trop petits et il y avait beaucoup de moustiques. Oui. Ça n'empêche qu'il a décidé d'en faire une résidence présidentielle.
Alors, historiquement, quelle est peut-être la pièce, le lieu le plus important dans le fort de Brégançon?
C'est certainement le bureau du président qui se trouve au premier étage où à la fois les visiteurs peuvent découvrir une vue magnifique sur la Méditerranée, mais aussi un lieu de pouvoir et un lieu où le président, même pendant ses vacances, peut travailler.
Il y a une pièce où, pardon Agnès, il y a une pièce où l'histoire s'est déroulée, où il s'est passé un événement incroyable, je ne sais pas, entre Giscard, Chirac ou avec Mitterrand?
Alors effectivement, sur l'une des terrasses du fort de Brégançon a eu lieu le célèbre déjeuner entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, durant lequel, selon la version du futur président Jacques Chirac, il a été humilié en public par le président en exercice, Valéry Giscard d'Estaing. Le président Chirac étant assis sur des chaises bistrot, et selon la version de Jacques Chirac, le président Valéry Giscard d'Estaing sur un fauteuil qui ressemblait à un trône.
Est-ce que les paparazzi ont accès assez facilement sur certains points de vue au fort Brégançon?
Non, c'est assez difficile puisqu'il y a une zone d'exclusion militaire, donc il était assez difficile. Mais avec des bons téléobjectifs, il est tout à fait possible, effectivement, de voir les présidents en vacances.
Même dans le plus simple appareil? C'est arrivé?
Écoutez, c'est arrivé.
Ah oui, oui. Avec le président Chirac, non?
Je me souviens de cette scène.
C'est bien au fort de Brégançon, mais il est en chaussettes.
Oui, absolument. Ça, on le voit en chaussettes, remontant de la plage avec son petit-fils Martin Rey. Voilà.
Ça fait partie de l'histoire.
Absolument.
C'est donc le président Hollande qui a ouvert le fort de Brégançon au public. C'était l'année dernière.
Oui, le président Hollande, l'année dernière, a souhaité que le fort de Brégançon soit ouvert au public et il a confié cette mission au Centre des Monuments Nationaux.
C'est bien. Il peut y revenir quand il veut ou il est obligé de fermer le fort ou ça se passe comment? Parce que s'il a envie de revenir.
Alors, le fort de Brégançon a pour caractéristique d'être encore une résidence présidentielle. Il peut à tout moment y revenir. Et d'ailleurs, il est venu le 15 août, au moment des festivités du 60e anniversaire du débarquement.
Merci pour toutes les explications historiques et autres, Bernard Maguarou. Vous qui êtes administrateur donc des centres des monuments nationaux dans le Var, on rappelle que c'est ouvert depuis ce matin. Hein, vous pouvez aller visiter là pendant ce grand pont. Et jusqu'au 30 septembre prochain, c'est ouvert chaque jour, tellement il y a de monde, jusqu'à 20h, tous les soirs. Profitez-en pour aller visiter le fort de la République. 22h18, dans un instant, on revient à l'une des tristes affaires du jour, des enfants qui ont été attrapés dans la cour de récréation par la direction du Collège Montaigne. On l'a su aujourd'hui, évidemment. Ils montraient des photos à certaines personnes et puis ils ont procédé à des attouchements sur d'autres enfants, des garçons et des filles. On va reparler de cette exclusion aujourd'hui de certains élèves. On va parler des sanctions avec Violaine Guérin, qui est présidente de l'association Stop aux violences sexuelles et sera notre invitée dans quelques instants.
RTL Grand Soir.
À Paris, collège Montaigne, donc, des élèves sont soupçonnés d'attouchements sexuels sur plusieurs filles de leur classe. En sixième, la brigade des mineurs a été saisie. C'est l'effroi, mais aussi la stupéfaction concernant l'âge, 10-11 ans. On sait que les garçons regardaient des vidéos pornographiques, visiblement. Alors, pour en discuter, en savoir plus, Violaine Guérin est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans RTL Grand Soir. Vous êtes gynécologue, endocrinologue, mais surtout présidente de l'association Stop aux violences sexuelles. Vous intervenez dans les établissements pour faire de la prévention. Donc, est-ce que cela vous étonne qu'en sixième, des jeunes gens, des jeunes élèves se livrent à ce genre de crime?
Alors, cela ne nous étonne pas parce que ça existe tous les jours dans la plupart des établissements scolaires, que ce soit les collèges, que ce soit les lycées, mais également le primaire, et il y a même de nombreux cas rapportés en maternelle. Donc cela
pardon,
ne nous...
pardon madame, mais vous dites tous les jours.
Tous les jours.
Pas des attouchements, mais des démonstrations de photos ou...
Tous les jours, il y a de la violence sexuelle dans les établissements scolaires. à tous les niveaux. Et les adultes en sont bien sûr responsables, puisque en première ligne de toutes ces déviances, il y a la pornographie qui arrive un petit peu partout. Et il est important, voilà, de prendre conscience que la violence sexuelle dans notre pays, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent.
De plus en plus jeunes, puisque vous disiez, on intervient également en primaire, on voit également des abus en primaire qui sont signalés de plus en plus.
Même en maternelle, oui, il y a de la violence sexuelle entre mineurs.
Mais comment est-ce possible en maternelle, pardonnez-moi madame?
Eh bien c'est possible quand les enfants eux-mêmes ont été victimes de violences sexuelles ou ont vu des cassettes pornographiques par exemple dans leur milieu familial. Ou,
Il y a 4-5 ans, des enfants
oui, à 4-5 ans, oui,
peuvent
oui,
être exposés à cette vision-là.
Mais bien sûr, cela existe dans certaines familles, les enfants ne sont pas protégés. On a également des tas d'images qui arrivent sur les télévisions, sur tous les terminaux, et il est important de prendre conscience que les enfants reçoivent cette violence, ne savent pas faire la part des choses, même certains adultes ne savent pas faire la part entre la sexualité et la pornographie, et donc il y a un vrai problème dans ce pays à résoudre, effectivement.
Alors, concernant cette affaire au Collège Montaigne à Paris, est-ce que vous avez davantage d'éléments en votre possession ?
Alors, oui, pour avoir été en contact avec certains parents et certains parents d'enfants victimes ou d'enfants auteurs. Et effectivement, les événements qui se sont passés sont de deux types, essentiellement des attouchements et des visions de pornographie, d'images pornographiques. Il est important de savoir que la violence sexuelle dans notre pays, c'est une femme sur quatre, un homme sur six.
Un homme aussi, hein, les hommes aussi.
Les hommes sont extrêmement touchés, en particulier dans l'enfance, que des dizaines de milliers d'enfants sont victimes dans notre pays tous les jours, que les dégâts sont immenses et que dans cette affaire du Collège Montaigne, il y a également des jeunes filles qui ont été auteurs. Mais malheureusement, je dis malheureusement, bien sûr, ces enfants sont tous des victimes. Et il va falloir qu'on rétablisse un petit peu l'équilibre parce qu'il y a des filles victimes, il y a des filles auteurs, il y a des garçons victimes aussi. Et
il peut y avoir un effet de groupe aussi, un entraînement.
C'est l'effet de groupe. Et les enfants n'ont pas la conscience de ce qu'ils font totalement, de la pathologie.
Dans les sanctions, aujourd'hui on parle d'exclusion pour certains élèves, de travaux d'intérêt pédagogique, on parle également de séances justement de prévention autour de cette relation garçon-fille, hein, de cet équilibre finalement.
Alors, ce que j'ai entendu dans la presse et également les messages de la ministre sont inquiétants en ce sens que c'est pas des travaux d'intérêt général qu'il faut faire, c'est mettre ces enfants en soins, les victimes comme les auteurs, et les auteurs ont été eux-mêmes victimes. Donc, il faut vraiment comprendre ce qui se passe et que tout cela est pathologique. Donc, c'est accompagner ces enfants qui en plus ont des sentiments de culpabilité, ont plein de tristesse, de honte également, mais il faut aussi savoir qu'ils peuvent développer à terme des pathologies, parce que bon, vous savez qu'on parle de la pathologie psychiatrique, des troubles que cela peut engendrer, un viol ou des attouchements, mais cela entraîne également des maladies chroniques, tardives, cela entraîne potentiellement des tentatives de suicide, de la drogue, on a parlé beaucoup de drogue aujourd'hui, il faut savoir que la drogue, c'est aussi un moyen d'anesthésier ses souffrances quand on a été victime de violences sexuelles.
Et des bombes à retardement.
C'est exactement ça, des bombes à retardement.
Vous parliez de pornographie tout à l'heure, avec des images qui sont effectivement de plus en plus faciles même pas accessibles, c'est-à-dire que sans les demander, les enfants peuvent les avoir sous les yeux. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, vous, en intervenant dans les établissements, vous apercevez que les enfants regardent des films pornographiques et ça devient finalement assez banal?
Oui, la pornographie, c'est plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a aucune volonté de combattre cette pornographie, de volonté politique déterminée. On a deux lois aujourd'hui qui ne sont pas appliquées. Une qui s'appelle 2011-267 article 5, qui est donc, comme son nom l'indique, en 2011, a demandé aux fournisseurs d'accès de veiller à ce que des images pornographiques n'arrivent pas sur les terminaux des enfants. Cette loi n'est pas appliquée. Deuxième loi qui n'est pas appliquée, tous nos enfants, année par année scolaire, doivent avoir 3 épisodes de prévention sur tout le sujet des violences, et cette loi n'est pas appliquée non plus dans nos établissements scolaires.
Pour rebondir et terminer sur la question de l'accès aux images, est-ce qu'on peut en arriver à une interdiction complète du portable? On est dans un lycée, encore une fois, qui est réputé, hein, qui est un grand lycée parisien, avec un collège. C'est un iPhone 6, c'est-à-dire un téléphone qui coûte quasiment 900 euros. Donc c'est quelque chose de très cher, donc c'est partout. Est-ce qu'on peut interdire les téléphones, justement?
Mais c'est partout. Ce sont des points qu'on a discutés avec certains législateurs de créer créer des bulles comme il y a dans les cinémas, hein, où on a un isolement total des établissements scolaires, et c'est souhaitable.
Oui, mais est-ce que les enfants ne peuvent pas avoir accès à ces images en dehors de l'école et finalement...
Ils peuvent. Les parents doivent aussi être vigilants. Beaucoup de parents n'ont pas installé les systèmes de protection de leur enfant. Et également,
ce fameux code parental sur les télévisions, sur les ordinateurs.
Et on a identifié un gros problème également, c'est que les enfants sont souvent chez les grands-parents et que les grands-parents se n'est jamais installé quasiment la protection parentale.
Donc,
on est dans une méthodologie effectivement particulière ou pour les plus jeunes générations maîtrisent mieux les technologies que les adultes.
Une dernière question, Violaine Guérin, qu'est-ce qui vous choque le plus lorsque vous intervenez auprès des jeunes et des plus jeunes en ce moment même, là, ce que vous avez vu au niveau de l'évolution
Les dégâts humains que cela crée. Et il est vraiment important que les gens, que tout le monde ait la conscience des dégâts humains. Cela tue des vies. Vivre un viol, c'est une bombe à fragmentation, c'est Hiroshima, c'est une destruction. On est mort vivant si on n'est pas en soins après ça.
Et de plus en plus jeune, c'est vraiment stupéfiant comme constat.
Comme témoignage en plus.
Merci infiniment, Violaine Guérin, d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de l'association Stop aux violences sexuelles et que vous intervenez à ce titre dans différents établissements.
Oui, et j'ai écrit un livre qui s'appelle
« Comment guérir après des violences sexuelles
voilà. ». Qui explique justement pourquoi il y a toutes ces violences dans cette société et qui donne un message très fort. On peut guérir avec des parcours de soins percutants, donc c'est important de le faire.
Merci à vous d'être venu ici même en direct dans nos studios pour RTL Grand Soir.
Merci beaucoup.
Bonsoir à vous.
RTL Grand Soir.
Clics à la une.
On enchaîne avec tout ce qui fait l'actualité du net ce soir. Et on retrouve avec grand plaisir Aymeric Partono. Bonsoir Aymeric.
Bonsoir Aymeric.
On va commencer par une petite interview politique. On dit 2.0, hein, on est d'accord.
2.0, exactement. Tout moderne, exactement. Nicolas Sarkozy, du coup, il a toujours réservé une place de choix aux réseaux sociaux dans sa communication politique. Après tout, il est l'homme politique français avec le plus de fans sur Facebook, ça ne rigole pas. Il n'abandonne pas Twitter pour autant. Demain, vendredi, l'ancien président de la République va échanger directement avec les Twittos pour une interview à partir de 11h30. Alors pour ça, son équipe a demandé aux internautes de poser leurs questions grâce au mot-clé, vous savez, le hashtag NS Direct, Nicolas Sarkozy Direct. Beaucoup de questions ont donc été tweetées. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs loué la créativité sans limite et l'esprit de débat sur Twitter. Et pour l'esprit de débat, croyez-moi bien qu'il a été copieusement servi. L'un des tweets qui a eu le plus d'écho pour l'instant est signé Tanguy Bismuth, en hommage au pseudo utilisé par Nicolas Sarkozy, Paul Bismuth, pour s'entretenir en toute discrétion avec son avocat. Je cite « Est-ce que si en 2017 vous reperdez, est-ce que vous requitterez la politique pour revenir ?» Alexandre lui demande « Les juges aussi, ils ont le droit de poser des questions lors de ce NS direct ?» Et Clara, elle enfonce le clou. « Je voudrais adhérer à votre parti, les Républicains, mais je n'ai jamais rien volé, ni escroqué, ni trompé personne. Est-ce possible ?» Bref, voilà, donc du coup, chacun y va de son allusion à des scandales, des rumeurs, des affaires judiciaires en cours, avec une mauvaise foi délicieusement piquante que les internautes adorent.
Une autre information ?
Bah oui, qui a fait le bonheur de la toile, hein, aujourd'hui en provenance des États-Unis Amérique.
Oui, alors couvrez ce sein que je ne saurais voir. On connaissait le rigorisme, le conservatisme des Américains et de Fox News, mais là, ils vont encore plus loin. Une des entêtes locales du network conservateur à New York a réalisé un reportage sur le tableau le plus cher du monde, Les Femmes d'Alger de Picasso. Alors, ils n'ont rien trouvé de mieux que de flouter les quelques malheureux seins cubistes de la toile de peur qu'un téton, même d'un chef-d'œuvre et même abstrait, ne vienne choquer leur audience. Alors l'un des critiques d'art du New York Magazine a tweeté hors de lui à quel point les conservateurs et Fox News sont-ils sexuellement perturbés pour flouter un Picasso. Alors Clément lui rebondit sur le dernier scandale qui agitait la Fox, souvenez-vous, pour Fox News. Les seins des tableaux de Picasso sont aussi des no-go zones. Et puis il y a ceux qui pointent les incohérences folles de Fox News, comme Sheena qui tweete « Fox News, c'est un homme brûlé vif, c'est bon pour la diffusion. Par contre, une peinture abstraite de seins, là, c'est l'horreur et on censure. »
Allez, on termine avec le top 3, les articles les plus lus sur le site RTL.fr, Aymeric.
Alors, premier article sur la réforme des collèges. Najat Vallaud-Belkacem saura-t-elle naviguer dans la tempête? Un deuxième article, on part en Charente-Maritime où le maire de Sainte s'est fait racheter son propre 4x4 par sa propre ville.
C'était
pratique.
Excusé tout à l'heure, disait dans le journal. Hein.
Et puis, un dernier article sur, bien sûr, le Festival de Cannes. C'est l'heure des paillettes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la cérémonie d'ouverture?
Tous les soirs, vous le savez, rendez-vous avec Cannes, comme tout à l'heure dans le journal, dans RTL Grand Soir, en direct de la Croisette avec Stéphane Boussoc et Michel Cohen-Solal. Merci beaucoup.
Merci, Aymeric.
Le prochain clic demain, 22h25, comme tous les soirs, dans RTL Grand Soir.
22h, 23h, RTL Grand Soir.
Christophe Paco, Agnès Bonfils.
Et Maud de Carpentier pour l'essentiel de l'actualité. Traquer les dealers de cannabis, mais aussi les consommateurs. C'est le but de l'opération lancée par Bernard Cazeneuve dans la ville de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, à l'aide de renforts de police. Mais pour les habitants, il s'agit d'une mauvaise tactique.
Il n'y en a pas plus, c'est pas vrai. Ils viennent, ils restent une petite heure ou deux, et ils se regroupent tous dans un endroit du quartier. Et après, une fois qu'ils sont partis, ils reprennent leur place et leur petit business. Il faut interpeller et mettre sous les barreaux les personnes qui sont responsables de ces trafics. C'est la seule solution.
Quand la police, les CRS quitteront le terrain, on reviendra à la même situation. C'est pas ça qu'on souhaite. Ces contrôles successifs de jeunes vont recréer de la tension. Ça va à nouveau partir en vrille. C'est pas ce qu'on attend.
Rachida Dati, soupçonnée par la Cour des comptes de dépenses irrégulières alors qu'elle était garde des Sceaux, la maire du 7e arrondissement de Paris dénonce une cabale politique au sein de son propre camp. Le maire de Saintes, lui, s'excuse et rachète son 4x4. Jean-Philippe Machon, maire d'hiver droite de la ville de Charente, avait provoqué la colère de ses administrés. Il avait fait racheter son ancien véhicule de fonction par la municipalité. Ce soir, il admet s'être trompé. Najat Vallaud-Belkacem a tenté une nouvelle fois de défendre sa réforme des collèges en déplacement à Lille aujourd'hui pour l'ouverture des congrès des parents d'élèves de la PEP. La ministre de l'Éducation a tenu à insister sur la faisabilité de la réforme et assure tout sera prêt pour la rentrée 2016.
Comme sur chaque point de la réforme du collège, nous ne menons pas nos réformes aux petits doigts mouillés. On nous attaquerait désormais sur la faisabilité de cette réforme des programmes des collèges. Eh bien, bien sûr que tout cela a été pensé pour être faisable techniquement, que les éditeurs savent qu'ils ont un an pour rédiger les manuels scolaires provenant des nouveaux programmes. Ne vous inquiétez pas, le travail est étroit avec les éditeurs et bien sûr que les choses seront prêtes en 2016.
Le chef de l'État islamique prend la parole dans un enregistrement sonore diffusé ce soir sur les sites djihadistes. Abou Bakr al-Baghdadi exhorte les musulmans à émigrer dans le califat. Et puis elles ont finalement échoué tout près du but. L'équipe féminine du PSG disputait ce soir la finale de la Ligue des Champions. C'est finalement Francfort qui l'a emporté 2-1. Écoutez la déception mais aussi la sagesse de la défenseur Laura Georges.
C'est frustrant avant tout parce qu'on perd dans les dernières minutes. C'est le sport, hein, je vais vous dire. Il n'y a pas de mort d'homme, il faut apprendre de ces choses-là. Il y a un jeune groupe, pas mal de joueurs n'avaient jamais joué de finale, ça s'appelle l'expérience. C'est peut-être la confiance, beaucoup plus de confiance, je pense, beaucoup plus de maîtrise, ça aurait aidé l'équipe. Je pense qu'il faut apprendre de ces périodes difficiles pour l'an prochain. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes déçu d'une compétition et qu'il y en a une qui s'enchaîne, c'est que ça vous permet de vous remettre dedans et de se dire, bah, on a un autre objectif et là, il faut relever la tête. Il y a des belles choses à venir.
Et puis il y a aussi la demi-finale retour de la Ligue Europa ce soir, Christophe.
Oui, les demi-finales ce soir, avantage Séville qui l'a emporté 3-0 à l'aller, 2-0 pour l'instant en retour. Avantage Dniepropetrovsk dans l'autre demi-finale retour de Ligue Europa puisque Dniepr mène désormais 1-0 face à Naples. Il y avait eu un partout au match aller.
Wall Street finit en nette hausse. Le Dow Jones clôture à plus 1,04%.
RTL Grand Soir. L'écho 2.0. Bénédicte Tassard.
Les infos de l'écho 2.0 avec vous, Bénédicte Tassard. Bonsoir.
Bonsoir.
Apple en vert, Amazon en rouge.
Apple est la première des sociétés high-tech du classement élaboré par Greenpeace parce qu'Apple réussit à alimenter tous ses data centers avec de l'énergie renouvelable, solaire, géothermique, 100% d'énergie propre. Suivent ensuite Yahoo, Facebook et Google. En revanche, Amazon ne vire pas au vert car il y a seulement 2% de sa consommation d'énergie en renouvelable.
345 postes en moins chez IBM France.
345 départs volontaires, essentiellement en fin de carrière, soit un peu moins de 5% des effectifs en moins d'ici octobre prochain. Bon, il y a déjà eu un plan de ce type il y a un an. À la fin des années 60, IBM en France, c'était 26 000 collaborateurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 9 000.
Toujours dans l'avant-garde, hein, au Japon, on attend désormais les premiers robotaxis.
Oui, c'est un fabricant de jeux vidéo en ligne qui vient de fonder une entreprise en association avec un spécialiste de la robotique. Il s'agit de construire les premiers taxis et les premiers bus sans chauffeur, tout comme le désirent aussi très fortement Google et Uber. Et d'après des projections, 10% des véhicules vendus dans le monde dans 20 ans seront des véhicules autonomes sans chauffeur. Vous voyez, c'est pas la peine de chercher à passer votre permis maintenant.
Et enfin, Bénédicte, les militaires chinois sont interdits d'objets connectés.
Un soldat a été surpris en train de prendre une photo avec une montre connectée qu'il avait reçue pour son anniversaire. C'est une violation des règles du secret militaire dans les casernes. Selon le quotidien officiel de l'armée chinoise, paf, confisquer la montre et interdiction désormais de posséder dans une enceinte militaire un accès Internet, un système de géolocalisation ou encore même des fonctions de téléphonie.
L'invité Écho 2.0.
Et votre invité ce soir, Bénédicte, est Rosario Troiano.
Rosario Troiano, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des opérations techniques pour Carglass, parce qu'on va parler pare-brise ce soir.
Ah non, commencez pas à chanter. Hein.
Et on va parler plus spécifiquement pare-brise connecté. Une enquête vient d'être publiée qui donne toutes les tendances à venir du pare-brise, avec de la technologie bien sûr. Et alors dans cette enquête, on apprend que le pare-brise va servir d'interface aux loisirs.
Mais sur quel pare-brise ? Parce que c'est le pare-brise du conducteur, c'est pas extraordinaire. Voilà. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer ?
Alors, on peut imaginer que ces pare-brises servent d'écran, qui puissent être utilisés pour transmettre foultitude d'informations. On pourra y lire toutes les données du véhicule, mais on pourra aussi y lire un film, un DVD, un spot de publicité, des clips musicaux, etc.
Non mais d'accord, mais ce que je ne comprends pas, c'est sur quel pare-brise ? C'est des pare-brises conducteurs ou passagers ?
Alors, vous avez...
C'est plutôt dangereux, votre histoire.
Non, mais à l'arrêt, peut-être.
Du tout, du tout. Ce qu'on pourra faire, c'est cantonner ces projections. On pourra, dans des endroits bien spécifiques, sur les latérales, sur des parties de pare-brise, des petites parties, venir utiliser cela comme aujourd'hui vous utilisez finalement l'arrière d'un siège pour projeter.
On aura donc nos SMS sur le pare-brise, par exemple.
Par exemple. Il y aura aussi probablement des interdictions, entre guillemets, ou des incapacités à utiliser certaines parties du logiciel pour éviter justement ces distractions. Mais finalement, aujourd'hui.
On peut faire de la commande vocale.
On peut faire de la commande vocale. On peut, comme aujourd'hui, finalement, utiliser son smartphone au départ de son volant uniquement.
Oui, mais enfin, maintenant, vous savez que pour le téléphone, vous avez entendu hier notre ministre. Il y a le Bluetooth qui fonctionne dans les voitures. Hein.
C'est vrai. Mais il y a aussi une nouvelle technologie qui arrive et qui sera basée sur le visuel. Donc, des caméras qui auront la capacité de capter votre regard et lorsque vous regarderez dans une certaine direction, pouvoir activer des modules, etc.
Est-ce qu'on va quand même dans le sens de la sécurité du conducteur ou est-ce qu'il va falloir encore légiférer ?
La sécurité, il y a aussi des équipements qui sont prévus sur les pare-brises.
Absolument, mais de plus en plus, je dirais, parce que là, vous avez pris l'exemple...
On a commencé par le fun.
Exactement. En réalité, toutes ces nouvelles technologies pourront aussi aider le conducteur à recevoir des tas d'informations. On sera capable, avec des caméras spéciales, de pouvoir voir ce que l'œil humain ne peut pas voir.
Des capteurs ?
Des infrarouges, enfin des tas de choses qui seront capables de percevoir notamment un être humain ou un animal se déplaçant dans un champ de vision qui n'est pas permis de
par l'œil humain.
Par l'œil humain, oui.
Détecteur de chaleur, quoi, quelque part ?
Alors, peut-être pas de la chaleur, mais de l'infrarouge, plutôt.
L'infrarouge,
la capacité à voir...
Un chevreuil traverse une route nationale, par exemple. On pourra l'apercevoir.
Et en même temps, de l'anticiper en termes de conduite.
Bien
puisque
sûr.
Vous savez que le système ADAS, par exemple, aujourd'hui, et Carglass, ce sont les aides à la conduite.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est regroupé sous la dénomination ADAS.
Mm-hmm. Alors, il y a aussi une autre fonction. C'est, le soleil m'éblouit trop. Le pare-brise peut
s'assombrir automatiquement, comme les lunettes.
Comme les lunettes,
mais avec une différence fondamentale, c'est que les lunettes, quand elles s'assombrissent de manière générale. Or, ce qu'on est capable de faire dans le vitrage automobile, c'est la capacité d'assombrir des zones, encore une fois, et donc uniquement des zones. On peut, dans le même vitrage, être capable d'assombrir 60 ou 70% du pare-brise et laisser la partie champ de vision très claire pour que le conducteur puisse continuer à avoir la bonne vision.
Alors, question toute simple avec la chaleur qui va arriver bientôt, qui est déjà même chez nous en ce moment. Est-ce qu'un jour, on aura, par exemple, surtout pour les enfants derrière, est-ce qu'on aura un vitrage qui pourra se transformer un petit peu ou transformer cette énergie solaire en climatisation ?
Peut-être pas de la climatisation.
Non, mais je vais loin, bien sûr.
En tout cas, on a des liens qui sont très étroits puisqu'on peut déjà assombrir et en plus avec le photovoltaïque récupérer l'énergie et derrière pouvoir alimenter ce que vous évoquiez donc des pompes refroidissantes clairement créer une réfrigération entre guillemets
les véhicules. Les premières innovations c'est à quel terme
Ça alors, les premières.
Dans quelques mois.
Non. Ce sont des choses qui sont commercialisées aujourd'hui. Ça évolue très, très, très vite. Tout ce qui est assistance à la conduite est déjà opérationnel. Arrive déjà, donc, ce qu'on a évoqué tout à l'heure en termes de loisirs, certains véhicules haut de gamme commencent déjà à exploiter et à proposer ce genre d'options. On est déjà dans cette ère. C'est une nouvelle ère qui commence. Oui.
Carglass remplace et répare. Donc.
Alors voilà, oui, non, mais on ne peut pas vous laisser partir, monsieur Troiano, sans vous poser la question sur ces nouveaux pare-brises. Si l'impact d'une taille d'une pièce de 2 euros arrive, est-ce que vous remplacez?
Eh bien, on remplace et on répare, madame. On fait les deux.
Merci beaucoup.
Ah, quand même.
Merci, Rosario Troiano. Vous êtes le directeur des opérations techniques pour Carglass et on peut retrouver votre interview sur le site RTL.fr.
Merci beaucoup à vous.
RTL bouge.
RTL grand soir.
RTL sport.
La Ligue des Champions. J'aurais pu mettre une musique triste, hein, mon cher Pierre Nabel, ce soir.
Mais non,
c'est triste.
Elles ont bien joué.
Non, mais quand vous perdez à la toute dernière seconde, Agnès Bonfillon.
Dernière minute, pas dernière seconde.
Ouais, c'est presque pareil. Bonsoir, Ludovic van de Kerckhove.
Bonsoir à tous.
On va revenir évidemment sur cette terrible déception donc, pour les Parisiennes du PSG, battues dans les arrêts de jeu en finale 2-1 par les Allemandes de Francfort. La Ligue Europe ce soir, Séville, c'est quasiment fait. Dniepr, pas mal. Dniepr pourrait créer la surprise et retrouver donc Séville en finale de la Ligue Europe. Ce sont les demi-finales retour ce soir. Et puis chez nous en France, grosse tension entre joueurs et supporters niçois. Des échauffourées ont éclaté ce matin à l'entraînement. Dossier complet, signé dans quelques instants, Michael Lefebvre.
RTL Grand Soir.
La Ligue des Champions féminin, Agnès?
La Ligue des Champions, donc chez les filles, ça ne marche pas non plus.
Et non, on n'y arrive pas. Et au Paris Saint-Germain, stoppé en quart de finale chez les garçons. Et les filles sont allées plus loin. La finale à Berlin tout à l'heure face à Francfort, 2-1. Et ce scénario cruel, vous le disiez, Christophe, avec ce but marqué à la 92e minute. Il y avait 4 minutes de temps additionnel. Il y avait un partout à ce moment-là de la rencontre. Les Allemandes de Francfort qui décrochent leur 4e titre. Elles avaient été sacrées championnes d'Europe 3 fois dans les années 2000. Celia Sazic, une francophone, qui avait ouvert le score à la 32e minute, la meilleure buteuse du championnat d'Allemagne depuis 2 ans.
Meilleure buteuse, vous.
Meilleure buteuse, vous voyez. Mère française, père
non,
camerounais.
Non, mais ça dépend. Vous avez toujours des débats, même à l'Assemblée, là-dessus, sur meilleur buteur au féminin. Ou
défenseur, défenseuse.
Voilà. Ah, c'est très bien.
Entraîneur, entraîneuse, par exemple. Vous voyez, c'est nul. Donc, voilà.
Bah non.
Oui, on peut en discuter. Voilà. Enfin, c'est pas le moment.
Oui, et Marie-Laure Delis, l'attaquante des Parisiennes, madame, un but par match, avait égalisé à la 40e minute. Le but, donc, de la 92e, extérieur du pied gauche. Il est, en plus, très beau, ce but de Islaker, donc bourreau. Des Parisiennes ce soir à Berlin. Alors que juste après encore, parce qu'il y avait encore 2 minutes de temps additionnel, Charles Cruz, la costaricienne du Paris Saint-Germain, a eu la balle d'égalisation à deux partout. Les joueuses étaient en larmes dans le vestiaire. La maire de Paris, Anne Hidalgo, les a retrouvées après la rencontre. C'est Michel Platini, le président de l'UEFA, qui a remis le trophée aux joueuses de Francfort. Scénario cruel. Charles Cruz, la milieu de terrain costaricienne au micro, RTL de Blandine 1100.
Ah oui, c'est très dur. Nous, on est venus ici pour la gagner, mais bon, on n'a pas gagné. Bah, je me suis jetée, mais bon, ça n'a pas marché. Mais ça veut dire que quand même, on a essayé. Perdre les dernières 5 minutes, c'était dur. Mais bon, ça fait partie du foot. C'est un projet. Dans un projet, il faut passer par là, par ces moments durs. Une très belle aventure, mais on espère que pour l'année prochaine, ça sera encore mieux.
En tout cas, un très beau parcours hein, pour sa deuxième campagne de Ligue des Champions. Hein, Ludo.
Ouais, pour le Paris Saint-Germain, effectivement. Deuxième saison et finale déjà. C'est vrai que c'était beau en éliminant les Lyonnaises qui avaient gagné 2 fois cette Ligue des Champions en 2011 et 2012, en 8e de finale. Wolfsburg, les Allemandes, les doubles championnes d'Europe en titre, éliminées en demi-finale par le Paris Saint-Germain. Très bon parcours. Et Nasser Al-Khelaifi a confié ce soir qu'il était fier de ses joueuses, il va faire plus fort encore, il va essayer d'engager une ou deux recrues de talent.
Il veut la gagner avec des champions, que ce soit au féminin qu'au masculin.
Ouais, et peut-être que ça ira plus vite avec les filles, il y croit en tout cas, et notamment Sazic qui avait marqué pour Francfort. Elle est annoncée au Paris Saint-Germain la saison prochaine. 17 000 spectateurs pour cette finale. La notoriété du football féminin grandit et ça ravit Jessica Ouara, milieu de terrain du Paris Saint-Germain.
On a vu une finale assez serrée et une belle finale, donc je pense, au-delà du résultat qui est négatif pour nous, le positif c'est que je pense qu'on a montré une belle image du football féminin français, mais aussi européen. Ça a fait bouger certaines choses, on voit la finale diffusée sur France 2, c'est quelque chose de nouveau et c'est bien pour le foot féminin français.
On a vu beaucoup de monde dans les tribunes et c'est ça, c'est bien aussi. Et j'espère que ça va continuer, que ça va pas être juste un feu de paille et que les saisons prochaines et les échéances prochaines, il y aura autant de monde pour nous et pour tout le foot féminin français.
Ouais, Jessica Ouara et sa lucidité au micro RTL de Blandine 1100 à Berlin ce soir. Pensez aussi pour l'entraîneur Farid Benstiti, malheureux déjà en 2010 avec Lyon, éliminé battu au tir au but en finale par les Allemandes de Potsdam. Et ensuite, il est parti et Lyon a gagné.
Il n'a pas vu arriver ce dernier but, hein, le pauvre.
Voilà, c'est sûr.
Non, mais c'est vrai. Il pensait déjà à sa prolongation, j'imagine. Le pauvre.
Et place à la Coupe du Monde maintenant, hein, les Françaises, effectivement, qui ont suivi. Elles sont en stage à Clairefontaine. Elles préparent déjà la Coupe du Monde. Elles attendent les Parisiennes samedi. Et elles ont suivi tout cela avec Philippe Bergerot, le sélectionneur, devant la télé. Ce sera du 6 juin au 5 juillet, bien sûr, au Canada.
On suivra ça dans RTL Grand Soir tous les soirs, bien sûr.
Chez les hommes, on le sait depuis hier, hein, la finale sera italo-espagnole.
Oui, Barça-Juve le 6 juin à Berlin aussi, dans le stade olympique cette fois. Et cinquième finale de Ligue des Champions pour Patrice Evra. Pat Evra, oui, fou, Monaco, hein. Manchester, la Juve maintenant. Patrice Evra qui a rencontré Mathias Valton hier soir juste après cette demi-finale, cette place en finale obtenue par la Juve, un partout sur la pelouse du Real.
Je suis content d'être en finale, mais il n'y avait pas de revanche à prendre ou quoi que ce soit. Quand les dirigeants de la Juve m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils voulaient faire les meilleures prestations en Champions League, qu'ils avaient besoin de mon expérience. Je les remercie sur le terrain avec mon expérience et porter tout ce que je peux pour aller plus loin.
Il ne change pas, Patrice Evra. Il a ce petit côté. Voilà,
on m'a appelé pour une expérience.
Ouais. On rappelle qu'il avait fait des déclarations fracassantes, certains joueurs de l'équipe de France, mais au niveau du palmarès, vous rappelez les clubs dans lesquels il a joué ?
On n'est jamais déçu avec Patrice Evra, notamment Manchester United, Monaco, à qui il a encore rendu hommage hier soir, Patrice Evra, en disant que ça avait été le match le plus compliqué de la Juve en Ligue des Champions.
RTL Grand Soir.
La France est samedi, Ludovic van de Kerckhove, l'avant-dernière journée du championnat de France de Ligue 1. Suspense tout en haut, on le sait, pour l'Europe. Suspense encore en bas quand même, hein, pour les équipes qui sont à la limite de la relégation. Comme Nice par exemple, 42 points, c'est pas si simple. Les supporters sont en colère ce soir, Ludovic.
Oui, 5 points quand même d'avance sur le 18e. Mais l'entraînement de l'OGC Nice a été émaillé d'incidents. Ce matin, c'est la deuxième fois que ça arrive cette saison, une trentaine de supporters à l'entraînement, qui a dû être écourté d'ailleurs. Michael Lefebvre, vous êtes la voix du football niçois sur RTL. Bonsoir Michael.
Bonsoir à tous. Oui, hier soir, à l'appel d'un des plus puissants groupes de supporters de l'OGC Nice, les Ultra Populaires Sud. Les plus chauds, voilà. Ils ont posté un message sur les réseaux sociaux invitant bien leurs sympathisants à venir se rendre ce matin au centre d'entraînement de l'OGC Nice pour manifester leur mécontentement, entre guillemets, dans la joie et la bonne humeur. C'est ce qui était donné dans le communiqué. Et puis ça a rapidement débordé avec d'abord des jets de pétards. Il y a eu 7 pétards de jetés, dont quelques-uns sur le terrain au moment où les joueurs s'entraînaient.
Les gros pétards agricoles, c'est ça ? On a vu ça fait beaucoup de bruit.
Voilà, qui viennent de Pologne maintenant. En fait, ils sont plus si gros que ça, mais ils font énormément de bruit.
Important.
Ouais, faut le préciser. Et donc ça a conduit Claude Puel à stopper l'entraînement. Alors c'était un entraînement un peu à la carte, tous les joueurs n'étaient pas sur le terrain. Et à la sortie donc entre le terrain d'entraînement et les vestiaires, il y a une petite route. Et là, eh bien, ça a commencé à chauffer un peu. Les supporters s'en sont d'abord pris à Claude Puel et son staff. Le gardien de but Moïse Hassen, voyant cela, il a voulu un petit peu intervenir et séparer tout le monde et prendre la défense de son entraîneur. Il a essuyé des coups. Tout à fait. L'entraîneur adjoint également, Guy Mingual, a été tiré par les cheveux un petit peu hors de la meute. Alors les stadiers ont fait ce qu'ils pouvaient pour intervenir. Il y avait des forces de l'ordre présentes, on en reparlera, qui ont assisté à la scène. Ah,
justement,
également.
Oui, aussi, Michael, parlons-en. Parce que dans un communiqué ce soir, le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, dénonce l'apathie des forces de l'ordre.
Bah oui, c'est ça. En fait, il met le doigt sur la passivité des forces de l'ordre qui étaient présentes, qui étaient prévenues, hein, puisque le message avait été posté hier sur les réseaux sociaux, que ce n'était pas la première fois que ça arrivait cette saison. Il ne voulait pas peut-être donner dans l'escalade de violence. Le président Rivère, dans son communiqué, il comprend aussi que les supporters aient manifesté leur mécontentement, mais il cautionne évidemment pas.
Personne ne peut cocher ce genre de choses,
dangereuse,
quoi.
Et voilà.
Comment s'est terminée finalement cette matinée ?
Ben, c'est terminé par une conférence de presse de Claude Puel et du joueur Jordan Amavi où aucun des acteurs n'a voulu commenter ce qui s'était passé. On sait que, par exemple, Claude Puel ne sera pas retenu par les dirigeants niçois si jamais une offre se présentait à lui.
Ouais, d'ailleurs, il avait essuyé des critiques, hein, à un mot à peine couvert, hein, de la part de Jean-Pierre Rivère. C'est ce qui est sans doute d'ailleurs à l'origine aussi peut-être de cette mobilisation des supporters qui en ont profité, qui ont senti que la porte était ouverte.
Ben oui, puisque après le match contre Saint-Etienne, Jean-Pierre Rivère a fait part de son embarras, de sa colère face au fait, par exemple, que le fils de Claude Puel, Grégoire Puel, soit toujours là, joue toujours au sein de cette équipe, alors qu'il était acté lors du dernier mercato d'hiver qu'il quitte le club.
Jamais simple. En tout cas, c'est insupportable ce qui s'est passé ce matin à Nice et il fallait le condamner ce soir, on l'a bien fait.
Merci, Mickaël.
Merci à vous.
22h, 23h, RTL Grand Soir.
L'autre actu Ligue 1 du soir, Florian Thauvin, hein, qui n'est plus sûr de rester à Marseille.
Oui, même si son nom revient régulièrement dans les rumeurs de transfert depuis quelques mois déjà, il avait expliqué après la victoire contre Monaco dimanche, qui avait relancé Marseille dans la course à la Ligue des Champions, qu'il serait à Marseille la saison prochaine. Aujourd'hui, il tempère, il affirme avoir envie de réussir à l'OM. Lui qui est très discuté, saison très contrastée, et c'est un euphémisme, 5 buts, 3 passes décisives seulement en 34 matchs de Ligue 1. Mais si l'OM doit vendre...
On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne connaîtra pas la position du club en fin de saison. Si le club n'est pas dans les premiers, dans les trois premiers, ils auront besoin d'argent et certainement de vendre des joueurs. Donc je verrai bien ce qui se passerait si le club a besoin d'argent et que je dois être vendu. Ce sont des choses totalement différentes. En tout cas, concernant ma position, j'ai envie de réussir à l'Olympique de Marseille.
Voilà, Florian Thauvin au micro RTL de Jean-Louis Pacul. C'est plus la même incertitude donc sur son avenir.
Allons, on termine avec un énorme coup dur pour Alberto Contador sur le Giro, le Tour d'Italie.
Ludovic. La sixième étape, Christophe, remportée par André Greipel au sprint. Et surtout donc cette chute dans le final, dans la dernière ligne droite. Alberto Contador souffre d'une luxation à l'épaule gauche. Le maillot rose espère poursuivre demain. Malgré cela, il va repartir avec un bandage pour soutenir son bras. Pendant la nuit, il va garder le bras immobilisé. Il a également été touché au genou, mais là sans gravité. On sait qu'il tente le doublé Giro Tour, Alberto Contador. Et bien, il n'a pas pu lever le bras, pas de maillot rose sur le podium protocolaire. Et demain, attention, 264 km à parcourir, la plus longue étape.
Pas sûr qu'il parte donc.
Ouais, de cette 98e édition, en tout cas, pas sûr qu'il aille au bout. Une chute provoquée par le zoom d'un photographe amateur. Le tennis à Rome avec le troisième tour. Qualification de Djokovic il y a quelques minutes face au Bellucci, le Brésilien. 5-7, 6-2, 6-3, ça n'a pas été rapide. Qualification également de Federer, Nadal et de David Goffin qui a battu Andy, qui a après bénéficié du forfait de Murray fatigué. Pas de Français en tout cas depuis le deuxième tour hier. Et un Geoffrey Nsonga battu par Goffin justement. Pas tendre avec lui.
À ce niveau-là, quand on n'est pas bon, on ne gagne pas. Donc je vais prendre mes fesses et puis je vais retourner à l'entraînement. Et puis il va falloir que je me bouge. Voilà. Je vais rentrer à la maison, je vais me préparer tranquillement pour Roland-Garros. Si je veux aller en deuxième semaine, il faut aussi que j'ai de la fraîcheur. Donc déjà, les premiers tours, ça ne va pas être facile. Donc ouais, je pensais que ça reviendrait un peu plus vite que ça. On ne peut pas dire que je sois loin non plus. Quoi. Tous les matchs que je perds... Je les perds, mais à chaque fois j'ai une occasion. Il n'y a pas un match où j'ai pas une balle de 7, un truc où je suis pas loin. Donc je pense que ça joue plus à grand chose. Et je vais continuer à m'entraîner. Et puis j'espère que la prochaine fois, ça passera un peu mieux.
Voilà, Geoffrey Nsonga, Roland Garros à partir du 24 mai au micro RTL de Georges Omsi à Rome pour RTL.
Ça se termine pour la Ligue Europe dans quelques instants. Séville mène toujours 2-0, donc qualifié hein, visiblement pour la finale. Ils avaient gagné 3-0. Oui, et puis Ludovic Dniepr, hein, c'est la grosse surprise. Il reste quelques secondes, on vous en parlera plus dans un petit instant avec un peu plus tout à l'heure avec Maud de Carpentier. Mais Dniepr mène 1-0, donc pour l'instant, avantage. Dniepr passe à fort par rapport à Naples. Demain, on vous retrouve 20h-22h. Il y aura du foot.
Oui.
Juste avant RTL, match. Grand soir. A tout de suite, surprise Agnès.
RTL Grand Soir.
Signé Agnès.
Signé Agnès, comme tous les soirs. Et comme ce soir, c'est jour férié, Agnès, j'ai un petit cadeau pour vous. Ça vous va?
Ah, bah oui, bah oui.
L'invité
bonsoir, monsieur.
Bah bonsoir,
oui,
monsieur.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur.
Jean-Pierre Savelli. Ça vous dit quelque chose, Jean-Pierre Savelli?
Ah, bah oui, mais fallait me le dire.
Bah oui, c'est ça, Jean-Pierre. On vous attend, Stone, pour chanter, Agnès.
C'est pas vrai.
Mais oui.
Elle a changé de couleur. On la verra à la vidéo.
Bonsoir, Jean-Pierre.
Salut.
Salut, Peter.
Merci, ouais, merci. Ouais. Nous, ça fait drôle, hein, Peter, ouais. On se connaît depuis tellement longtemps.
Bah, nous, oui, oui, nous, ouais. Oui. Les auditeurs vous connaissent. C'est quoi, c'est le plus grand tube des années 80? Le plus
grand tube? L'un des plus grands.
L'un des plus grands tubes. Français, oui, 2 millions de disques. 14 semaines numéro 1 du top 50.
Ouais. Puis un carton avec Star 80, bien sûr, le film.
Ouais. Ouais.
Et il y en aura un deuxième?
Oui.
Ah yes.
Depuis et vous serez dans le deuxième aussi?
Oui.
D'accord. Avec Stone toujours? Parce que c'est toujours très chaud tous les deux.
Oui, oui. Rapport, bon, hein. Moi j'ai arrêté de chanter dans le duo depuis 2 ans, mais oui. Le film, j'ai dit oui parce que c'est important. Quoi.
Alors, je peux profiter
de vous poser toutes les questions.
Comment on vit l'après?
Moi j'ai vécu l'après comme j'ai vécu l'avant. C'est-à-dire que j'ai chanté 12 ans en solo avant,
ouais.
Avec des belles périodes comme les uns les autres avec Lelouch, où j'ai été produit 10 ans par Michel Legrand. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de génériques de dessins animés, j'ai fait beaucoup
c'est pas
de
vrai.
Choses avant.
Mais oui, c'est oui, pour oui. Ça qu'on l'invite ce soir, parce qu'il sort un tout nouvel album avec sa compagne également qui est à l'intérieur, qui s'appelle Manga Story. Et comme c'est une folle du Japon, ma copine Agnès Bonfillon, voilà, on était obligé de commencer par ça.
Entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore.
C'est Goldorak, c'est quoi? C'est Actarus, c'est la légende d'Actarus.
C'est la légende d'Actarus, c'est ouais.
Mais enfin, je savais pas que c'était vous qui chantiez.
Mais il y a plein de choses. Alors, vous faites de la radio, vous savez même pas que des chanteurs.
Mais
ils
non,
font.
Mais...
Ah non, mais c'est bien. C'est toute ma vie.
Mais non, mais j'avais pas fait le rapprochement entre Peter et Sloan et Goldorak.
Bah oui, c'est pas le même.
Bah disons que c'est pas le même.
À l'époque, on disait que vous étiez aussi.
Non, mais quand le duo est sorti, franchement, des gens comme Christophe Paco, on s'est connu en tant que Jean-Pierre Savelli depuis des années.
Parce qu'on a joué au foot ensemble.
Voilà. Donc j'ai pris un pseudo, Peter. Et Sloan, j'avais fait un slow qui s'appelait Slow pour Anne, qui était la face B de Besoin de rien, et Sloan, voilà. Ça, c'est l'histoire du duo.
Sur cet album Manga Story qui sort lundi, c'est un cadeau ce soir pour vous, Agnès, c'est pour les
éditeurs. Non, mais écoutez, mais oui, bah oui, excusez-moi, mais
il y avait également le fameux Albator.
Costume, hein, sur
Alors, parce que c'est un spectacle, justement.
C'est un spectacle que nous avons monté avec ma femme Sandry, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages que je n'ai pas chanté. Par exemple, Capitaine Flamme, je ne l'ai pas chanté, sans Koukaï non plus, mais j'ai repris aussi. Ma femme a chanté Candy, Maya l'abeille, Tom Sawyer.
Oh,
et on
Tom
a fait
Sawyer,
des versions,
génial.
Bien sûr, Tom nouvelles.
Et là, c'est l'Amérique, voilà. Le symbole de voilà, la liberté.
Mais je pense que les gens vont chanter autant que sur la tournée Star 80, hein, parce que c'est que des tubes.
Ah, bah, c'est que des tubes. Il y avait XOR aussi.
Très petite.
Ouais.
Je suis désolée, hein. Pardon.
Moi, c'était pas trop mon truc à l'époque. Moi, c'était plutôt ça.
Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie.
Voilà, ça va chanter
mais
de partout comme ça.
Mais du fond de la
et ça,
nuit.
Quand vous arrivez comme ça avec Flamme.
Elle a fond.
Elle a fond. Quand vous arrivez avec tous ces déguisements, c'est magnifique. Ouais. Parce que les gens de notre génération voilà, adorent et ils peuvent amener leurs enfants. Enfin, en plus.
On n'est pas de la même génération.
Je parlais de Jean-Pierre et moi,
non,
pardon.
Mais, non, mais c'est pour dire aussi. Non,
c'est pas du tout un spectacle pour les enfants.
Mais on peut amener les enfants.
J'ai que des
dire.
Gens de 30, 35, 40 et plus
voilà,
qui arrivent avec les pochettes de 45 tours et qui me disent voilà, moi j'ai eu ça, j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et là, je vous vois, je savais même pas que vous existiez. En gros, je connaissais que la voix du chanteur.
Mais c'est mon cas.
C'est ça qui est bien.
C'est ça qui est bon quand même.
Et j'ai la surprise de beaucoup
de gens. Et c'est génial.
Quand ils écoutent ça, ils disent Ah bon ?
Il n'est pas tout seul. Il est avec Sloan dans le duo très connu Peter and Sloan. Il est avec une femme charmante, c'est son épouse. Et son épouse chante très bien aussi.
Au pays de Candy.
Allez-y, Agnès.
C'est mixé là.
Ah oui, non, mais. Ah oui, on n'a pas repris.
On s'amuse, on pleure, on rit. Voilà. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles.
Ah ouais, vous êtes
un peu.
Moi, je voulais emmener ma femme. J'ai dit non, tu es Agnès.
Ah non, mais moi, vous mettez même pas une pièce, je pars toute seule.
Il y a une tournée, vous allez dans les magasins aussi, où il y a des mangas. Comment ça se passe en
Oui, on démarre le 24 mai, donc dans les grands magasins de Cultura, à travers Paris. On va faire un petit showcase de 20 minutes. Et c'est pour ça, j'avais ce projet depuis quelques années, et puis je me suis dit, il faut le monter sur scène. Alors sur scène, il y a un DJ qui envoie plein de titres de 80, et puis les personnages, ce sont des acrobates qui arrivent en Albator, en XOR, voilà. Et c'est la rencontre de Capitaine Flamme avec XOR.
Et ça se passe bien
Oui, ça se passe bien. Et...
Maya l'abeille et Albator, ça va dans les coulisses.
Ils font des saltos, il y a Candy qui se fait courser par Albator, c'est bien. C'est bien.
On n'en veut pas savoir ça. Hein.
Dans les coulisses, il se passe des trucs incroyables.
On peut encore faire des blind tests là ?
Non. On n'a plus le temps parce que vous avez vu l'heure, il est bientôt 23h, Agnès.
Ouais, mais...
Juste, moi, j'ai un petit regret parce que je suis allé à la Star 80 samedi dernier. Ouais. Et puis, j'ai pas vu Jean-Pierre Savelli et Peter Enstone sur scène et vous nous avez manqué.
Merci, c'est vrai qu'on nous l'a dit. On nous l'a dit. Parce que moi, j'ai arrêté le duo depuis 2 ans et parce que j'en avais un petit peu marre. Je voulais reprendre ma carrière en solo. Et je pense que les producteurs, ils ont jugé bon de ne pas nous rappeler. Ou... Après, il y a eu des problèmes de contrat aussi là-dessus.
Ouais.
Mais bon, c'est pas grave. Les gens se sont posé la question.
Moi j'adorais Peter et Sloan, mais le début, c'est magnifique le début.
Vas-y Jean-Pierre, tu peux y aller.
Hein.
Le jour se.
Ah ouais.
Les cœurs.
Dans la tendresse sur la ville.
Là c'est Agnès.
Tu me fais vivre.
Si vous la voyez. Hein.
Comme dans un rêve.
À retrouver sur artel.fr, bien sûr. Hein.
Tout ce que j'aime.
C'est à nous les garçons. Hein. Attention.
Je n'ai rien envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Besoin de rien.
Ils ont pas
envie de toi.
On va y aller, Agnès. On va y aller. On fait un énorme bisou à Jean-Pierre Savelli. Les mangas.
Ouais, c'est vachement
première chouette. Émission avec vous.
Voilà. Ah bah, et la carrière solo qui continue. Le film Star 82 qui sortira. Oui. Et là, vous serez dedans cette fois.
Ah, on est dedans. On tourne de janvier au mois d'avril 2016.
Génial. Bah,
merci
pour
merci beaucoup en tout cas pour cette jolie surprise.
Merci à vous.
Salut Jean-Pierre. Merci. Salut. Jean-Pierre Savelli ce soir dans RTL Grand Soir.
Et moi, bientôt, je suis au Stade de France donc. Bah, ouais.
Ou dans Star 82, qui sait.
Oui, aussi.
Jean-Pierre, te pose pas trop de questions quand même.
Joli mariage, les anniversaires.
C'est bien ça. Bonne nuit, les petits, c'est bien. Non, restez avec nous. C'est mignon, ça.
Merci, Pierre Babé.
Merci à vous. Demain, on se retrouve, hein, comme tous les vendredis soirs, désormais, pour RTL Grand Soir, entre 22h et 23h. À demain, Agnès.
À demain.